Bonjour, Marie-France Guimard-Roche est très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission de l'Écho de ma commune, sponsorisée par le Conseil départemental d'Eure-et-Loire, Aidez plutôt. Et pour ces émissions qui concernent la deuxième circonscription d'Eure-et-Loire, où se présentent 12 candidats, je reçois aujourd'hui dans les studios d'Urocast de Radio Grand Ciel, Kevin Boété. Bonjour Monsieur Boété.
Bonjour et merci pour votre invitation.
Jean-Marie Pilet est avec moi et va aussi vous bombarder de questions, pourquoi pas.
Bonjour.
Bonjour.
Donc, vous défendez les couleurs de la gauche sur la deuxième circonscription d'Eure-et-Loire. Monsieur Boété, vous êtes investi par le nouveau parti, le NUPES, pour être candidat donc aux législatives de cette circonscription. Qui êtes-vous ?
Juste une précision d'abord, c'est pas un nouveau parti, c'est... Le nom donné à la coalition, en fait, chaque parti reste souverain et chaque parti aura son groupe parlementaire à l'Assemblée. Et donc, qui je suis ? Ben, je suis militant France Insoumise depuis la création du mouvement, donc en 2016-2017. Je suis chauffeur accompagnateur. J'habite à Dreux d'une famille drouaise depuis... Alors moi, je suis né à Auxerre parce que mon père avait été muté, mais... Je suis revenu ici depuis que j'ai 12 ans à peu près.
Vous me disiez que vous aviez une grande famille.
Oui, c'est grande, oui.
Et toute la famille est sur Dreux.
Pas tous, mais une bonne partie, oui.
Une bonne partie. Donc, vous vous présentez pour... J'ai parlé de nouveau parti parce que je lis Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Quels sont les partis qui sont regroupés autour de M. Mélenchon sous cette appellation ?
Oui, il y en a beaucoup, alors, mais... On va dire c'est peut-être pas très correct de dire ça, mais les principaux, quoi, les plus gros, c'est le rassemblement donc de la France Insoumise, d'Europe Écologie Les Verts, du Parti Communiste Français et du Parti Socialiste. Et puis le Parti Rêve, la Gauche Révolutionnaire, plein d'autres partis aussi.
Mais il reste néanmoins, malgré tout, malgré ce rassemblement de la gauche, beaucoup de partis sur Dreux qui se présentent également et qui n'ont pas adhéré aux idées de M. Mélenchon. M. Mélenchon a pris la direction de ce NUPES, et à tel point d'ailleurs que ses affiches annoncent Mélenchon Premier ministre. Vous y croyez, M. Boété ?
Oh ben bien sûr, oui. Après, on fait tout pour. Le rassemblement qu'il y a, il est historique, d'après moi. C'est jamais arrivé sur un premier tour que tous les candidats soient d'accord pour... qu'il y en ait un seul. Alors quand je dis tout, c'est vrai qu'il y a d'autres partis de gauche, mais souvent la France Insoumise est classée comme extrême gauche, ce qui est, à mon sens, totalement faux. Il n'y a rien de révolutionnaire. Enfin, c'est un changement radical avec un programme radical pour changer la vie des gens, mais on ne va pas exproprier les patrons, on n'est pas purement anticapitaliste, etc. Et donc c'est normal que d'autres partis qui, eux, se sentent, je dirais, beaucoup plus à gauche, défendent leurs couleurs et leurs idées.
Mais vous ne pensez pas quand même qu'en disant que votre parti est pour un changement radical, cette idée même puisse passer pour une rupture totale avec la politique actuelle, par exemple, du Parti Socialiste, qui paraissait beaucoup plus, beaucoup moins extrême, si je peux dire.
Pour prendre un exemple d'une mesure, on veut encadrer les salaires dans les entreprises. Qu'il n'y ait pas un écart entre le plus petit et le plus gros salaire qui soit d'une différence de fois 20. Alors c'est sûr que pour beaucoup, c'est attention, ils sont fous, c'est extrême. C'est un changement extrême quand il y en a qui prennent fois 100, fois 200 dans les entreprises du CAC 40. Mais concrètement, quelqu'un qui va travailler toute sa vie, et quelqu'un qui va. Son patron va faire le même salaire en 2 ans. Ça va, c'est pas trop extrême, je veux dire.
D'autant plus que ça a des répercussions, évidemment, sur les retraites.
Bien sûr, mais ça a des répercussions sur tout. Pour moi, il faut encadrer. Après, c'est sûr que par rapport à ce qui a été fait par le Parti socialiste, etc., avant, on passe pour extrémiste. Mais je pense surtout que le CICE, par exemple, qui vient du Parti socialiste et du gouvernement Hollande, n'a rien d'une mesure de gauche. C'était pas. Donc c'est sûr qu'après, on pourrait passer pour l'extrême gauche.
Précisez-moi, le CICE, c'est quoi?
Crédit impôt compétitivité emploi, c'était censé créer de l'emploi, donc on subventionnait les entreprises pour créer de l'emploi, mais ça a surtout subventionné des entreprises pour en vérité licencier.
Dans les hebdomadaires français, on vous juge pas comme des extrémistes de gauche et votre programme commun, elle n'a rien à voir avec le programme commun de Georges Marchais et de Mitterrand. Et il est jugé par Marianne notamment, parce que je suis lecteur de Marianne, beaucoup moins vindicatif.
Oui, c'est sûr qu'il est bon. Enfin, comme je vous ai dit, alors peut-être pas tous, sachant le discours change un petit peu, mais oui, comme je vous ai dit, on est profondément à gauche, on est pour un changement radical de société pour que chacun puisse vivre dignement. Mais oui, c'est vrai qu'on n'a pas un programme qu'on pourrait catégoriser d'extrême gauche, quoi.
Ce qui fait un petit peu penser, effectivement, cette appellation de programme commun. Tout de suite, on a la référence de M. Mitterrand, effectivement. Mais donc, pour vous, non, ce n'est pas un vrai programme commun. Vous
Alors,
partagez beaucoup de choses, mais vous avez également beaucoup d'idées qui restent chacun chez vous.
y a des idées qui restent chacun chez nous, mais on s'est quand même mis d'accord sur les grandes lignes, les lignes les plus importantes. C'est pas non plus, je veux dire, c'est pas un tract, quoi. C'est quand même 650 mesures concrètes sur lesquelles on s'est mis d'accord. Et c'est pas rien, c'est des
On
mesures.
peut dire que c'est un vaste programme.
Oui, c'est un vaste programme.
Mais combien qu'ont été retenus pour tout le monde?
Pardon?
Combien sur les 650 mesures, il y
Ah,
en
les
a
650 ont été signés par tout le
signés par
monde.
tout le monde?
Oui.
Autrement dit, si vous êtes élu à l'Assemblée, les députés, du NUPES, voteront d'un seul homme.
Ah non, parce qu'il y a encore, voilà, par exemple, il me semble que, après, je connais pas bien tous les programmes de tous les autres partis, mais il me semble qu'on a des petites divergences entre un groupe France Insoumise et un groupe Parti communiste sur le nucléaire, par exemple. Où là, on va avoir des visions un peu différentes.
Notamment.
Et après, il y a des. Enfin, quand il va s'agir de voter le budget, et puis de savoir s'il faut l'encadrement des prix, s'il faut l'augmentation de salaire, s'il faut le 100% sécu, tout ce qui va, enfin, tout ce qui est très important, urgent, écologique, etc., nous sommes d'accord.
Vous, la France Insoumise, par exemple, vous êtes tout à fait favorable à l'encadrement des prix ou pas?
Bien sûr, on le proposait déjà à la présidentielle. L'encadrement des prix de première nécessité, l'encadrement du prix du carburant, la gratuité des premiers mètres cubes d'eau, etc., de ce qui est essentiel à la vie.
Les produits de première nécessité, effectivement. Vous vous engagez auprès de Jean-Luc Mélenchon, donc après les présidentielles de 2017. Je vous cite, cet engagement correspondait à mes convictions profondes avec plus de justice sociale et une politique en faveur du climat. Donc il y a aussi une grosse partie d'écologie chez Monsieur Mélenchon.
Bien sûr, oui, c'est. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, c'est une évidence. Ceux qui renient le changement climatique sont vraiment à la marge aujourd'hui. Je pense que tout le monde en est conscient. Ensuite, je pense. Enfin, la manière, en fait, dont la France insoumise est construite et dont le programme se construit fait que on a des pôles et on a des gens vraiment spécialisés, et puis on va toujours à la base, en fait. Donc on va consulter les associations qui vont faire des choses pour le climat, etc. Et je pense que c'est un des programmes les plus travaillés. Et on a un rapport du GIEC qui est tombé, qui nous dit qu'on a 3 ans pour faire un réel changement dans la société avant que ce soit trop tard. Et dans 3 ans, ils savent pas ensuite ce que ça va donner si on n'a pas réduit drastiquement les gaz à effet de serre.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite avant ces 3 ans fatidiques?
Ah ben, il y a beaucoup de choses. Il faut revoir le transport de marchandises notamment, déployer faire revivre le réseau ferroviaire. Il faut absolument aussi isoler un maximum de maisons. C'est une grosse part. C'est en plus à la fois d'être écologique, c'est aussi social. Il y a
Ça,
énormément de
c'est très
passoires
coûteux.
thermiques.
C'est très coûteux. Et pour les propriétaires, et pour.
Mais combien ça coûte quand, quand une partie de la terre va être immergée sous l'eau, combien ça coûtera? Combien ça coûte la pollution de l'air à la sécurité sociale? La question n'est pas de savoir combien ça coûte. D'ailleurs, j'invite ceux qui nous écoutent à aller sur YouTube regarder la vidéo sur le chiffrage. Vous allez voir que tout est possible. C'est un peu long, ça dure 3 heures,
Il y a des aides également,
mais
d'ailleurs,
tout
pour
est possible. Ah oui,
l'isolation des maisons.
mais bien sûr, il faut que l'État continue d'encourager ça. C'est extrêmement
Ça,
important.
pour vous, c'était une bonne mesure.
Bah, c'est un pansement sur une hémorragie parce que, alors je me rappelle plus du nombre de maisons de combien on en prenait en charge à l'année, mais il faudrait faire du fois 100, quoi. Il y a urgence. On a l'impression vraiment que c'est un pansement sur une hémorragie. Et comme souvent, en fait, c'est plus un coup de com'. Alors c'est très bien, ça a profité à certaines personnes. C'est très bien, mais il faut vraiment le déployer à grande échelle.
Nucléaire. Le nucléaire se pose un petit peu problème entre les écologistes et puis même M. Mélenchon qui semble peu favorable.
Quelle est la position de M. Mélenchon d'ailleurs sur le nucléaire?
Je pense qu'elle est claire, il est plutôt contre le nucléaire et il est pour les énergies renouvelables. Mais le nucléaire pose plusieurs problèmes. Déjà, il faut savoir qu'on a des centrales nucléaires qui sont en fin de vie. Là, on nous dit qu'on va pouvoir les refaire, alors qu'on aurait ils étaient prévus qu'on les ferme. Là, on nous dit qu'on va pouvoir les
Carrément
refaire.
les démanteler.
Ben, c'est ce qui était prévu par rapport à quand ils ont été construits. Ils ont été construits pour tant d'années, on arrive au bout. Donc normalement, voilà, il fallait les démanteler. Et puis, enfin.
C'est ce qui a été fait pour Fessenheim.
Mais donc là, on nous dit maintenant qu'ils vont pouvoir recaréner. Ça va coûter des milliards. Il faut avoir confiance. Je ne sais pas si on peut leur faire confiance là-dessus. Et puis ça pose des problèmes. On a des centrales nucléaires qui sont dans des zones qui sont inondables. Donc avec le réchauffement de la planète, on ne sait pas combien de temps avant qu'il y ait un accident potentiel.
C'est peut-être moins crucial que le Japon, par exemple. L'accident nucléaire qui a eu lieu
Fukushima.
au Japon est dû évidemment au tsunami, non pas du tout à la qualité de la centrale,
Oui.
mais le Japon est particulièrement visé par les tremblements de terre, par les séismes. C'est peut-être pas le cas de la France tout à fait.
Non, mais je vous dis, il y a des centrales qui sont dans des endroits qui vont être des zones inondables d'ici quelques années, à haut risque en tout cas. Et il y a aussi un problème de souveraineté. On n'extrait pas les matières qu'on a besoin pour les alimenter. On ne les extrait pas en France, toutes ces matières. Et puis, il y a aussi la question de l'eau, encore une fois. Mais une centrale nucléaire, ça demande énormément d'eau. Là, on est en manque d'eau. Il y a des restrictions partout dans le pays. Est-ce que vraiment l'eau doit servir à ça?
Les nappes phréatiques sont au plus bas, en tout cas.
C'est ça? Donc, est-ce que notre eau doit servir à. Enfin, s'il n'y avait pas d'autre solution? Bon, je sais pas, mais là, il y a d'autres solutions. Il y a pas, notamment Negawatt qui propose un changement en profondeur d'ici à 2050 et qui nous dit qu'on peut sortir du nucléaire d'ici à 2050. C'est un dossier qui est sérieux, qui est travaillé.
Par quelles actions et à quel prix?
Alors, par quelles actions? Ça vient par plusieurs choses. Déjà, il faut consommer moins. Alors, pour consommer moins, tout à l'heure, on parlait des passoires thermiques, et ben, c'est une des solutions.
Vous n'iriez pas jusqu'à la décroissance?
Non, là après, comment dire, c'est des notions économiques. Il faudrait un débat pour savoir concrètement ce qui est pour vous la décroissance, etc. Par contre, puisqu'on est là-dessus, je pense qu'il faut mettre en avant des nouveaux indicateurs. La décroissance, enfin, j'imagine, comme vous l'entendez, ça doit être par rapport au PIB, par rapport au produit intérieur brut. Si je creuse un trou là. Le produit intérieur brut, enfin, j'appelle une entreprise qui va creuser un trou, le PIB va monter. Je rappelle une entreprise, elle va reboucher ce trou, le PIB va monter. Est-ce que ça a changé quelque chose dans la vie des gens? Rien du tout. Donc, il y a un moment, il faut, je pense, prendre des nouveaux indicateurs des indicateurs de progrès humain ou ce genre de choses. Et revoir notre manière de penser le monde, il faut plus être au service de la finance, mais plutôt que la finance soit au service du bien commun.
Alors, l'énergie renouvelable, il y a les éoliennes, beaucoup de gens sont contre.
Sur Terre, en mer, il y a pas que les éoliennes, il y a tout ce qui est panneaux solaires, il y a aussi
Les panneaux photovoltaïques.
oui, il y a aussi les turbines qu'on peut. Enfin, on est un des pays où il y a le plus de côtes. Il y a les turbines à mettre.
Style usine marémotrice de la Rance, par exemple.
Je suis désolé, je n'ai pas la référence, mais peut-être.
C'est une des plus grosses, une des premières et une des plus grosses, oui, c'est
D'accord.
Dinard.
En tout cas, c'est impressionnant quand on voit ça.
C'est complètement impressionnant, mais c'est une belle
Très belle
technologie,
réalisation.
belle réalisation qui date de cinquantaine d'années
Et qui
peut-être,
marche
et
toujours.
qui marche toujours.
Et puis bon, les anciens nous ont montré que la force de l'eau marchait très bien pour produire de l'énergie, hein. Il y avait des moulins, etc. Et ça
Parfaitement
marchait comme ça.
renouvelable.
Donc bon, là, bien sûr, ça a une autre échelle avec une autre technologie un petit peu plus poussée, mais le principe fondamental reste le même, hein, du courant, une hélice,
En tout cas, on peut peut-être
produit de
supposer
l'énergie.
que ce genre d'usine marémotrice ou autre sera mieux accepté par la population que, par exemple, les champs d'éoliennes.
Oui, je pense. Et puis il y a aussi autre chose, hein. Si les projets ils sont pensés de la base, ils sont tout de suite mieux acceptés. C'est-à-dire que si vous arrivez, oh, ben, je construis une éolienne là, vous avez interrogé personne, vous ne connaissez pas la vie du territoire, etc. Forcément, ça va pas aller. Maintenant, si les choses étaient faites vers du bas, pensées directement avec les associations, avec les habitants, alors je n'ai pas la recette miracle, mais si c'était pensé avec les gens, je pense qu'on aurait beaucoup moins de mal à faire accepter les choses.
Tant
Avec
pis.
Monsieur Mélenchon, la concertation sera beaucoup plus importante parce que, en ce moment, elle est. Parler d'associations au sujet de projets nouveaux, que ce soit éolien, autoroutier ou autre chose. Les concertations, on se demande ce que veut dire le mot concertation. C'est pas, on n'emploie pas le même sens, on n'a pas le même sens pour le mot concertation. Actuellement, est-ce que M. Mélenchon s'engagerait en tant que Premier ministre à une concertation réelle avec les personnes concernées?
Alors, je dois avouer que
Parce que jusqu'ici, c'est un peu bidon quand
si
même.
Mélenchon avait été président, il aurait convoqué une assemblée constituante, etc. Et on aurait pu re refaire toutes
La
les règles
Sixième
du jeu.
République.
C'est ça, c'est exactement ça. On aurait pu rédiger des nouvelles règles du jeu. Et donc, dans ce cas-là, je vous aurais dit oui à 200%. On a toujours ce projet de changement constitutionnel, etc. Maintenant, je dois avouer que c'est pas le sujet qui m'a paru le plus important. Depuis l'élection présidentielle, surtout à cause du pouvoir d'achat et de tous les problèmes qu'on rencontre en porte-à-porte. Donc, j'ai pas retravaillé sur ce sujet. Je ne sais pas à quel point on pourra modifier les règles sans avoir la présidence. Mais on ira toujours dans le sens de plus de démocratie, de plus d'implication, etc. C'est notre vision, en fait, tout simplement. Alors, on n'arrivera peut-être pas aussi loin que si on avait gagné la présidentielle. Mais toutes nos actions iront toujours dans ce sens. Et je pense que dans tous les domaines, en fait, ce qu'il faut voir, c'est notre vision des choses et savoir que à chaque fois, à chaque étape, nos décisions seront prises de manière à aller au plus proche de notre objectif.
Plus de démocratie avec un chef emblématique comme M. Mélenchon, qui fait quand même souvent preuve d'autorité, c'est possible, ça va avec?
Ben, c'est une vue de l'extérieur, une vue de l'intérieur. On a ré régulièrement des votes internes, comment dire, des questionnaires pour des avis sur certaines choses, des amendements sur les textes d'orientation, etc. Après, au sein d'une organisation politique, c'est toujours un petit peu compliqué, parce qu'il faut écouter certes tout le monde, mais il faut aussi avancer,
Prendre des décisions, vous
prendre
voulez
des
dire.
décisions, et puis. Je dirais qui respecte une charte en fait, qui respecte une vision. Et donc certains peuvent ne pas se sentir entendus à certains moments, mais je pense que dans l'ensemble, en tout cas, on est plutôt écoutés.
J'ai vu votre communication sur YouTube devant l'hôpital de Dreux. Et l'hôpital est en souffrance particulièrement à Dreux. Quelle est la situation réelle de l'hôpital de Dreux?
Ben, je crois que là, les urgences tout l'ont montré. Ils ont totalement craqué. Ça s'est jamais arrivé dans l'histoire de l'hôpital de Dreux. Il n'y avait plus d'urgence la nuit. Il fallait que notre pronostic vital soit engagé pour pouvoir être accueilli. Je pense que dans quel état est l'hôpital de Dreux? Il est comme partout. Hein. Alors, c'est pas venu d'un coup. C'est une déconstruction sur 10, 15 ans, peut-être plus. C'est un manque de personnel, c'est un manque de moyens, de matériel. Vous savez, je suis un utilisateur régulier de l'hôpital. La vidéo que vous avez vue sur YouTube, je sortais de mon hospitalisation de jour. eh ben, c'est des sièges qui ne fonctionnent pas, qui sont bloqués dans une position un peu pas très confortable, quoi. Et puis, bah, vous restez comme ça pendant 7-8 heures parce que, bah, il n'y a pas d'autre siège, il n'y a pas d'autre fauteuil. C'est la dernière, donc c'était il y a 3 ou 4 semaines. Bon, bah, il n'y a pas de télé parce que les plombs ont sauté, qu'il faut attendre que l'électricien vienne, etc. C'est du bidouillage pour que la personne qui vient pour vous demander vos repas avec son ordinateur, c'est du bidouillage avec une rallonge pour qu'elle puisse le brancher dans une autre pièce.
Alors, si vous êtes élu, c'est la première chose à quoi vous vous attellerez dès votre élection.
Ah ben, c'est pas une responsabilité directe du Parlement. C'est un tas de choses. Donc nous, on est pour arrêter la tarification à l'acte, par exemple, qui est une horreur et qui a. J'ai rencontré le syndicat de l'hôpital, le syndicat CGT de l'hôpital il y a 2 jours, qui nous a expliqué que financièrement, avant, l'hôpital allait très bien. Ça a été mis en place et depuis, ça ne fait que s'écrouler. Les finances n'ont jamais été aussi mal que depuis que ça a été mis en place et puis ça va en s'empirant.
Un
Ça, il
problème de
faut arrêter.
gestion?
Mais de gestion au sens large, pas de l'hôpital de Dreux, de problème de gestion sur le pays. Enfin, on a voulu en fait quelque chose qui n'a pas de prix, on a voulu y donner un prix, on a voulu faire de l'argent sur un service public. Ils sont là avant tout pour nous soigner, on a voulu rendre cet outil rentable. Et ça marche pas.
Rentable, ça veut pas dire gagner de l'argent, forcément, en ce qui concerne la santé. On a voulu rentabiliser un petit peu les équipements en fonction du prix de ce que l'État, enfin, ce que la sécurité sociale reçoit pour, en fonction des prestations.
Je pense que c'est clairement un échec. Enfin, comme je vous dis, les comptes, etc., avant étaient bons, maintenant ils ne sont plus bons. Les soignants craquent, le matériel il craque, il n'y a rien eu de bon à tout ça. Moi, je pense qu'il faut revenir à. Encore une fois, tout à l'heure, on a parlé du CICE. Sans toutes ces mesures qui ont pris l'argent de la sécurité sociale, et ben, on aurait pu investir plus dans nos hôpitaux. Là, aujourd'hui, en France, c'est plus de 100 000 soignants qui manquent.
Et
C'est
ceux qui
pareil.
restent sont un peu désabusés.
Ben, ils sont
Ils sont
usés.
usés.
C'est des journées de 12 heures. Il y a toujours quelqu'un qui est absent qu'il faut remplacer. Ou il y a toujours 2-3 heures en plus par là. C'est très dur. Je n'aimerais pas être aujourd'hui soigné à l'hôpital.
Vous promettez, dites-vous, monsieur Boëtet, de rester proche des Français si vous êtes élu député de cette deuxième circonscription. Votre modèle est, semble-t-il, François Ruffin. Le côté artiste en moins. Pourquoi? Vous n'êtes pas un artiste? Vous êtes seulement un insoumis, monsieur
Alors,
Boëtet?
ça n'a pas été très bien réécrit, c'est pas mon modèle. Donc j'ai dit que si cherchais quelqu'un de connu à l'Assemblée qui pourrait ressembler à ma manière à moi d'agir, ce serait lui. Parce que
Mais alors
sinon
le
ça fait
côté
un peu le
artiste?
côté idole, bah, le côté artiste, parce que voilà, il fait des films, etc. Et moi j'ai pas vocation à me lancer dans le cinéma. Bon après, qui sait ce que nous réserve l'avenir?
Donc vous êtes résolument un insoumis.
Bon, François Ruffin, enfin, je sais pas pour rien que j'ai rejoint le réseau Fakir, son journal, c'est parce que sa manière de. Il n'y a qu'à voir sa campagne actuellement, hein. Il ramène de la vie dans des endroits où il n'y en a pas. C'est
Et comment
de la
fait-il?
joie, etc. Déjà, il a des moyens humains, il a la volonté, c'est un acharné du travail.
Est-ce que
Et
pour
puis.
vous, la politique, c'est vraiment une chose sur laquelle il faut énormément de volonté, justement?
Bien sûr. Surtout, bon, lui, il est élu, moi je suis pas élu, donc c'est en plus de. Là, je suis là, je pourrais être avec ma femme, par exemple. Donc c'est toujours du temps qu'on prend sur le temps perso, c'est souvent beaucoup, beaucoup de temps,
Il faut des
surtout dans ces
convictions,
périodes.
du
Il faut des
dévouement.
convictions, il faut. Voilà.
Petite question, là. Environnement. Faire en sorte que la Terre puisse être défendue comme une personne morale. J'ai du mal à saisir.
Alors en fait, c'était l'idée qu'on puisse porter plainte contre quelqu'un qui a attaqué la Terre
Un
en se mettant,
écocide.
voilà,
Bon,
mais en
d'accord.
se mettant réellement la Terre comme,
Comme personne morale.
là, par exemple, le président a été condamné pour une action climatique.
Oui.
C'est symbolique, mais
Ouais.
concrètement, du coup, il faudrait que ça puisse aller plus loin. Et là, c'est le
Parce
président,
qu'il
mais
a été condamné, mais ça fera rien, il ne se passera
ça pourrait
rien.
être pareil avec une entreprise qui
Oui.
déverserait dans une rivière ou toute autre chose. Il faudrait que puisse être partie civile. Voilà, c'était ça le terme que je
D'accord.
cherchais
Ouais.
tout à l'heure.
Donc, écocide, C'est un mot qui devrait être dans la dans les statuts ou dans la dans la Sixième République.
En tout cas, la règle verte devrait y être.
Ouais.
Je pense, en tout cas, bon, si elle était réécrite, je ne peux pas décider aujourd'hui
bien
tout
sûr.
seul de ce qui sera écrit dedans, mais en tout
Écrit
cas,
en violet.
écrit en violet, oui, aux couleurs de la NUPES. Mais oui, la règle verte, je pense qu'il faut que ce soit dedans. On a dépassé le jour du dépassement était il y a à peu près 3 semaines, je crois, un mois, 3 semaines. Je n'ai plus trop notion du temps avec la campagne.
Le jour du dépassement sur l'année, vous voulez dire?
Oui. Donc,
là, on vit à crédit depuis
toujours,
la semaine dernière.
Ça arrive toujours plus tôt d'année en année. Et donc ça, il faut que ça s'arrête. Il y a un moment où il faut revoir notre manière de produire et de consommer.
Kevin Boété, merci beaucoup d'être venu dans nos studios. Jean-Marie Pilet et moi-même, nous sommes très contents de vous avoir reçu. Émilie Glory, directrice d'antenne, enregistrée cette émission, aidée par le conseil départemental d'Eure-et-Loire, qu'elle réalisera naturellement dans les studios d'Urocas de Radio Grand Ciel. Et merci beaucoup. Bonne fin de campagne.
Merci à vous.
Au revoir, monsieur Boété.
Au revoir, monsieur.